Sainte Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est éleveur en Haute-Garonne, père et grand-père, heureux, comblé à l'entendre et à le lire. Chercheur de Dieu, membre de la communauté nouvelle Réjouis-toi, licencié en théologie à l'Institut catholique de Toulouse, il vient d'écrire un livre pour partager son amour, l'amour de sa famille et celui de Dieu pour cette dernière. Un hommage simple, courageux et vrai. François Dromard, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes donc l'auteur de La famille creusée de nos richesses, paru aux éditions Encre Étoile. Et on est très heureux, enfin je suis très heureux de vous recevoir ce matin. Je le disais, donc c'est un livre de témoignage, c'est un livre, j'allais dire presque d'hommage en fait à ce que vous avez été donné de vivre. Et puis c'est un livre que vous adressez à vos enfants et à vos petits-enfants. Peut-être pour commencer, c'est ça, à qui est-il adressé en premier? À Dieu, à eux?
À mes enfants, à mes petits-enfants, et puis à toutes les familles, je crois.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Est-ce que vous pouvez nous dire?
Alors en fait, c'est parti de la demande de mes enfants. Parce que, donc, ils m'avaient demandé de leur témoigner, de leur partager ce que nous avions vécu avec mon épouse au début un petit peu de notre histoire, de notre rencontre, au moment aussi où nous avons rencontré le renouveau. Notre histoire aussi a été marquée par notre activité professionnelle comme agriculteur, éleveur. Voilà. Et puis, notre vie aussi a été marquée par des épreuves, par des difficultés. Et c'est, je crois aussi, ces drames qui m'ont permis, qui m'ont donné un peu l'audace, peut-être, de parler aux familles, parce qu'en fait, cela m'a rapproché un petit peu de toutes celles qui vivent des grosses difficultés, des grosses souffrances.
Donc, vos enfants, vous demandez quoi? Vous demandez un livre récit de votre vie ou un livre de sagesse? Ou qu'est-ce qui les intriguait, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils avaient envie de savoir ou de vous entendre dire, en dehors du fait que vous les aimez, probablement, mais...
En fait, j'ai commencé par leur écrire un récit de notre histoire. Donc ça a été une première expérience d'écriture qui m'a passionné, qui a été vraiment pour moi source d'une grande joie. Et donc c'est à partir de là que j'ai voulu un peu ouvrir et continuer l'aventure.
Voilà, donc il y avait une commande large, en tout cas, de la part de vos enfants, c'est ça?
Tout à fait.
Alors vous commencez cette œuvre, enfin, il y a pas mal de citations dans cet ouvrage. La première que j'ai retenue, c'est, il y en a deux que je voulais citer, une citation de Montesquieu. Je vais garder juste celle-là. « Heureux celui qui, connaissant le prix d'une vie douce et tranquille, repose son cœur au milieu de sa famille. » À lire cet ouvrage, qui est un ouvrage, je dis, enfin, très beau, et en même temps très simple, j'espère ne pas vous vexer en vous disant ça. Hein. On sent que vous êtes un homme qui a choisi certaines priorités, peut-être assez tôt dans votre vie, et que vous vivez en fait un bonheur caché. Alors j'allais dire presque un petit ciel. Je ne sais pas si c'est tout à fait ce qu'il faut dire, mais que voilà, vous sortez en fait de votre silence quelque part pour partager un trésor. Dites-nous pourquoi vous avez mis presque au premier chapitre cette citation. Est-ce qu'elle elle est à l'image de votre choix de vie? Heureux celui qui, connaissant le prix d'une vie douce et tranquille, ce qui n'est pas rien, hein, repose son cœur au milieu de sa famille. Montesquieu.
Oui. Alors, la vie de famille est un trésor pour moi. Je crois que c'est, je l'ai appelé le creuset de nos richesses. C'est pas non plus, pour autant, un long fleuve tranquille. Je crois que c'est un torrent impétueux, avec justement beaucoup d'aventures, beaucoup d'événements qui nous marquent. Mais j'ai voulu poser un peu sur la famille un regard réaliste, mais enthousiaste. Parce que je crois que, quelles que soient nos familles, et je sais qu'il y a des familles qui sont très éprouvées, nous sommes redevables et nous avons une dette, parce que c'est là où nous avons accueilli la vie, c'est là où nous avons permis, où nous avons eu la possibilité de faire grandir tout notre potentiel, tous nos talents. Et donc c'est vraiment un lieu à préserver, à défendre.
Vous êtes forcé pour voir toutes les belles choses qu'il y a eu dans votre histoire familiale ou ça vous est venu? Parce que c'est surtout un regard d'émerveillement quand même, votre livre.
Oui, non, pas du tout. Non, non, je ne me suis pas forcé. Non, non, parce que je crois qu'il y a, oui, un regard contemplatif à avoir sur son conjoint, sur ses enfants. J'ai été aussi frappé par la lecture de la joie de l'amour du pape François. Et en débutant son encyclique, il nous dit... L'exhortation apostolique, oui. Il nous dit que la famille n'est pas un problème, mais une opportunité. C'est vraiment le lieu de nos richesses.
Alors, je vais essayer de raconter très rapidement votre vie, parce que l'idée, c'est pas forcément de raconter votre vie, mais c'est difficile quand même d'avoir quelque part votre conseil de sagesse sur la vie familiale sans la dévoiler. Elle ne commence pas à ce moment-là, mais vous racontez donc que vous êtes allé en Vallée d'Aspe pendant vos jeunes années du début du renouveau, vous me disiez en préparant l'émission, années pleines de ferveur et d'idéal, et vous êtes allé là-bas pour vivre peut-être un peu, enfin vivre une vie proche de la nature. Vous étiez objecteur de conscience à ce moment-là, c'était donc dans les années 60, c'est ça ?
70.
Dans les années 70. Vous avez commencé donc une vie là-bas, vous allez nous décrire un petit peu ce que vous avez vécu. Et puis, il y a eu comme un prolongement, après que vous ayez rencontré votre épouse, vous êtes installé en Haute-Garonne, pas très loin donc de l'abbaye Sainte-Marie du Désert, pour ceux qui connaissent,
oui.
Qui est donc une abbaye, une trappe, comme on dit. Donc dans un vallon plein de silence aussi, hein, un vallon plein de contemplation, vous avez été éleveur. Et c'est là où donc, vous avez eu vos enfants, 4 enfants, et puis donc aujourd'hui, je disais, 14 petits-enfants. Vous êtes toujours... Racontez-nous peut-être un peu cette aventure en Vallée d'Aspe, peut-être pas dans le détail, mais c'est, semble-t-il, quelque chose de fondateur pour vous.
Alors, ce qui d'abord a été pour moi la première quête, c'était vraiment donc une recherche un peu du sens de ma vie. Et la première réponse que j'ai trouvée, c'est la non-violence. Et j'étais avec des amis étudiants et vraiment j'ai eu pour moi l'impression que tout ce que je découvrais là était une illustration de l'évangile et que la non-violence était pour moi la manière dont je pouvais essayer de vivre ma foi. Et donc
Vous étiez déjà chrétien ?
Oui, oui, oui. J'ai fait la démarche pour demander le statut d'objecteur de conscience et donc je suis arrivé en Vallée d'Aspe pour aider des agriculteurs de montagne. Et c'est là que j'ai découvert le milieu agricole, le milieu paysan et nous avons vraiment vécu une expérience assez exceptionnelle d'intégration et de service auprès des agriculteurs.
Et donc il y a eu une tentative de vie en communautaire chrétienne aussi, vous disiez ?
Oui, oui.
En quoi ça consistait ? Est-ce que c'était...
C'est-à-dire qu'après nos deux années de service civil, nous avions vécu une expérience tellement fabuleuse qu'on s'est dit ben, on reste, on peut pas s'en aller. Et donc on a essayé une tentative de vie communautaire dans un coin de montagne.
Puis vous avez rencontré votre épouse.
Tout à fait.
Vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément le lieu pour vivre une vie de couple, une vie de famille.
Oui.
Et donc vous êtes arrivé en Haute-Garonne.
On est arrivé progressivement en Haute-Garonne,
voilà.
C'est-à-dire qu'il y a eu quelques années. Mais après, donc, on a fait le saut pour acheter une propriété pour nous installer. Et la particularité, c'est que nous avons acheté une propriété qui n'avait aucun bâtiment. Donc, on a vraiment démarré à zéro. Et donc, on a vécu pendant une bonne, je dirais, dizaine d'années, une période d'installation, de travaux dans une certaine précarité.
Voilà, vous aviez quoi, un bâtiment quand même pour vous loger ou...
Oui, on avait une structure métallique qui nous permettait d'héberger les chèvres, la fromagerie et puis l'habitation.
Et vous viviez en dur, vous, quand même ou...
On a vécu pendant 2 années en caravane, au moment, parce qu'on a commencé d'abord à faire les travaux pour les bêtes avant de les faire pour nous.
Voilà, vos enfants sont arrivés.
Et donc, nous avions déjà 2 enfants à ce moment-là.
D'accord, donc un choix de vie qui est quand même assez radical. Hein,
c'est... Tout à fait.
C'était un choix conscient, voulu, enfin ça correspondait aussi peut-être à un mode de vie simple,
proche de la nature. Nous voulions vraiment être en adéquation avec nos aspirations et puis ce désir de vivre auprès de la nature. Oui, c'était quelque chose de très fort pour nous.
Et puis, vous me disiez en préparant l'émission donc, que vous êtes éleveur, donc vous faites du fromage de brebis. Et
de chèvre.
De chèvre, pardon. Et vous avez toujours choisi dans votre vie en fait, de maintenir une petite exploitation. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Alors, d'abord parce que nous avions une exploitation assez, assez petite, mais je n'ai pas voulu grossir pour ne pas rentrer dans un cycle infernal d'investissement, de dépendance. Voilà, donc je suis resté petit éleveur et après quelques années un petit peu où les travaux ont été à peu près terminés, on a opté pour une activité complémentaire d'accueil, de goûter à la ferme et de ferme de découverte.
Alors, dans votre livre, qui est donc un regard d'émerveillement, je l'ai dit déjà et je le redirai, sur la famille et sur l'aventure qui vous a été donnée de vivre, qui vous est donnée de vivre, vous, il revient souvent l'idée que la vie familiale est un combat. Alors, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil, hein, tous ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, probablement, le comprennent très bien, mais à vous entendre, en fait, c'est un combat qu'il faut choisir, quelque part. Qu'est-ce que vous diriez d'abord sur ce sujet ? Quel écho ça trouve dans votre ouvrage ou dans votre cœur ?
Oui, comme je le disais, la famille n'est pas toujours très, très simple à vivre. On est confronté à des difficultés, on est confronté aussi à nos blessures. Et nous avons aussi vécu, au bout de quelques années, au moment où nous étions encore dans une certaine précarité, j'ai eu un accident de voiture qui m'a immobilisé avec un déplacement des cervicales. Voilà. Et donc, cet événement...
Qui vous a immobilisé pendant combien de temps ?
Pendant un mois où j'ai été immobile, sans bouger. Et donc là, ça a été pour nous un véritable séisme parce que nous avons vécu comme un déséquilibre entre nous, ma femme et moi. Elle était confrontée à des grosses difficultés matérielles parce que donc il fallait qu'elle assume l'exploitation toute seule pour éviter d'abandonner complètement. Et elle avait aussi quatre enfants en bas âge à s'occuper. Et moi, j'étais dans ma chambre d'hôpital, où moi j'avais du temps. Moi, j'étais vraiment dans l'action de grâce aussi parce que j'ai vécu une présence, une grâce de présence assez extraordinaire qui m'a permis de tenir.
De présence, c'est-à-dire
de présence de Dieu qui est venu vraiment me soulager au jour le jour, vraiment heure après heure, minute après minute dans mon épreuve. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que lorsque je suis revenu, j'ai voulu justement reprendre un petit peu ma place, permettre à ma femme de se reposer. Et en fait, c'est pas ce qu'elle attendait. Elle attendait à ce qu'il y ait une remise un peu en place de ce que nous voulions vivre. Et du coup, ça a été pour nous un gros moment de crise. Elle, d'ailleurs, a eu un contre-coup assez important après l'accident. Et pendant plusieurs années, nous avons été confrontés à des difficultés où l'accident revenait tout le temps. Et c'est grâce à vraiment une aide extérieure et par les retraites agapées que nous avons compris que cela aussi avait touché nos propres blessures, nos propres fragilités.
Alors je dis juste un mot, donc les retraites agapées, c'est donc des retraites, les fameuses retraites de guérison intérieure, enfin je dis fameuses, tout le monde n'a pas entendu parler de ces retraites qui ont lieu enfin un peu partout en France, mais en tout cas vous, c'est des retraites qui ont lieu en Puy-en-Velay.
Voilà. Oui.
Je précise aussi, parce qu'il y a un peu à boire et à manger dans ce type de retraite, même parfois, hélas, chez les chrétiens, que pour le coup, les retraites agapées du Puy-en-Velay sont réputées pour être des retraites auxquelles on peut aller en toute confiance. Donc, peut-être on reviendra hein, sur cette étape de votre vie où vous avez vécu une retraite et ça vous a éclairé. Tout est-il que votre vie donc, a été traversée par cette difficulté. Peut-être pour continuer de faire connaissance, en dehors du père et du grand-père comblé que vous êtes, qu'est-ce que vous voudriez apporter au pot ou partager avant une deuxième partie un peu sur vos conseils de sagesse sur votre vie familiale, chose que vous avez difficulté ou combat que vous avez eu à mener.
Oui, alors je crois que le maître mot de l'éducation, c'est la confiance.
Et alors avant vos conseils de sagesse, c'était revenir plutôt sur votre parcours de vie.
Ah, oui.
Quel autre combat vous avez eu à vivre peut-être qui voudrait alors, au niveau proche de nos auditeurs.
Au niveau de la famille, nous avons donc 4 enfants. Nous avons eu un fils qui a eu une adolescence assez difficile. Où nous avons vécu aussi un peu une descente aux enfers avec lui parce que il s'est un peu désocialisé. Il a commencé un peu à se droguer. Et face à cette grosse difficulté, nous avons toujours voulu, avec mon épouse, d'abord ne pas nous cacher, oser en parler et vraiment demander de l'aide. Et je crois aussi que c'est ça qui nous a permis de tenir et puis de lui permettre aussi à lui de garder confiance.
Voilà, ça c'est vos combats. Vous voudriez dire quelques mots peut-être de vos engagements d'église aussi, donc nous dire quelques mots de la communauté Réjouis-toi, ça peut être l'occasion parce qu'elle n'est pas forcément connue de grand monde. C'est une communauté qui est née dans l'ouest de la France.
Tout à fait, fondée par Michel Sentier.
Qui a la particularité diocésaine, enfin au départ en tout cas.
Oui, avec justement comme charisme...
Michel Sentier, pardon, je vous ai coupé la parole, qui est aujourd'hui évêque de Créteil.
C'est ça. Et donc avec un de ses charismes importants, c'est l'évangélisation au sein de l'église diocésaine. Donc c'est pas une communauté qui a des œuvres propres, mais qui se met au service du diocèse pour porter l'évangile. Et donc sur Toulouse, nous avons une petite communauté qui est récente, puisqu'elle est issue de la communauté de Montauban, qui était plus importante, et nous avions plusieurs membres qui faisaient partie du diocèse de Toulouse, donc on a voulu débuter une communauté sur Toulouse. Et notre spécificité sur Toulouse, c'est que nous sommes une dizaine d'engagés, mais où nous avons à peu près 25 enfants. Et donc la caractéristique familiale est très importante. Et j'en profite d'ailleurs pour inviter toutes les familles et toutes les personnes qui veulent vivre des moments forts avec leurs enfants de nous rejoindre, puisque toutes les journées communautaires sont ouvertes à tous.
Voilà, en introduction de votre ouvrage, ou en préface, et ça en préface, il y a un mot donc de Don Jean-Marie Couvreur, qui est père abbé émérite de l'abbaye cistercienne de Sainte-Marie-du-Désert, cette fameuse trappe dont je parlais tout à l'heure, voilà, qui dit que votre livre a trouvé pas mal d'échos dans son cœur de moine ou son cœur d'homme. Alors, bien qu'il n'ait pas eu de vie de famille, en tout cas, il dit que votre livre arrive au bon moment pour l'Église, le moment où, justement, il faut parler et dire la beauté de cette aventure familiale en dehors de ces crises ou ces difficultés. On va faire une première pause, puis on va vous retrouver pour quelques conseils de sagesse que j'ai glanés au long de ce livre.
Alléluia.
Présence à Figeac 97.7. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc avec François Dromard, auteur donc d'un ouvrage s'appelle La famille creusée de nos richesses, paru aux éditions Encre Étoile. François Dromard, je rappelle, si vous nous prenez en cours de route, qui est tout simplement, qui est éleveur en Haute-Garonne, père et grand-père, et qui donc a écrit ce livre de témoignages du fond de son cœur, partageant l'amour de sa famille et son amour de la famille en général. Alors, dans votre livre, donc, vous avez dit qu'il a été écrit à la demande de vos enfants et de vos petits-enfants pour essayer de partager un peu ce qui a fait les trésors de votre vie. Vous donnez quelques conseils de sagesse par-ci, par-là. Alors, ils peuvent paraître, banals, parce que certains on les a déjà entendus, mais la vérité de la manière dont avec laquelle vous dites les choses, je pense, peuvent rejoindre les uns les autres. La première chose que j'ai notée, c'est que vous dites il faut avoir un regard positif. Vous l'avez dit déjà au début de cette émission, vous auriez même pu dire avoir un regard contemplatif, parce que votre livre, on a l'impression que vous contemplez quelque part l'œuvre de Dieu dans votre vie à travers votre vie de famille. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet et qu'est-ce que vous voulez partager avec vos lecteurs ?
Alors, dans mon histoire et dans ma rencontre avec mon épouse, j'ai vraiment aussi senti que le Seigneur était présent dans notre vie de couple et aussi dans notre vie de famille. Et que donc, il y a vraiment une vie à trois, je dirais, à vivre dans notre vie de couple, si on veut vraiment continuer sur un chemin qui perdure. Et je crois aussi que au niveau de mes enfants, au niveau aussi de mes petits-enfants, ça me paraît essentiel d'avoir un regard bienveillant. Je crois que si on voit les défauts de l'autre, si on le critique, si on lui dit qu'il est incapable de faire ce qu'il a à faire, on va saper son énergie et ses capacités à grandir. Si au contraire on l'encourage, on le stimule, on croit en lui, ça va lui permettre de grandir. Ça me paraît essentiel.
Voilà, c'est facile à dire, mais c'est parfois plus compliqué à faire. Nous ne réalisons pas combien chaque regard bienveillant que nous portons sur eux, donc sur le monde de nos familles, sont autant de briques que nous leur donnons pour bâtir leur édifice intérieur. Tout homme a besoin d'être reconnu dans ce qu'il est, pouvoir développer le potentiel qu'il est en lui, etc., etc. Les mots disent par eux-mêmes le sens profond qu'ils contiennent. Et vous dites aussi qu'il ne faut pas avoir peur de dire, en fait, non seulement des paroles valorisantes, mais de dire son amour aussi. Et ça, pour un père, un époux, c'est pas toujours chose courante. Alors dites-nous un petit mot sur ce sujet.
Je crois aussi.
Il y a parfois des épouses qui attendent en effet pendant des mois et des semaines des paroles valorisantes ou des paroles d'amour, parfois des enfants même.
Ça me paraît aussi très important d'apprendre à exprimer ce que l'on ressent. Et je trouve qu'il y a une grande grâce même dans notre génération, enfin la génération de mes petits-enfants, d'exprimer leur ressenti. Je donne un petit exemple, c'est que de temps en temps, j'ai mes petits-enfants qui me sautent au cou en me disant « Papilly, je t'aime ». Bon, mais je craque à chaque fois parce qu'ils osent dire ce que nous, quand on était petits, on n'osait peut-être pas dire, à tort, parce que c'est important. Et c'est vrai que dans le « je t'aime », c'est vrai aussi dans toutes les émotions, que ce soit les émotions positives ou négatives, et de bien prendre conscience que l'émotion n'a aucune connotation morale. La colère, l'agressivité n'est pas mauvaise en elle-même. Elle peut être au contraire le moteur d'un changement. On parle de la sainte colère de Jésus, elle n'est pas simplement réservée qu'au Seigneur, mais vraiment je crois que la famille est vraiment le lieu d'apprentissage, l'atelier, je dirais, où l'on apprend à communiquer, où l'on apprend à se pardonner, où l'on apprend à s'accepter avec ses différences. Je m'aperçois que
vous auriez, alors juste avant qu'on vienne sur ce volet, est-ce que vous auriez l'exemple aussi dans votre vie de famille de paroles de « je t'aime » justement que vous avez osé dire, même si vous êtes un homme, je sais pas, à vos proches qui vous avez vu ou senti l'importance de cette parole?
Je pense, c'est un petit peu différent, mais je pense aussi aux gestes de tendresse. Je me souviens très bien au moment où nous avons eu de grandes difficultés avec un de nos enfants, où j'ai eu l'obligation de l'hospitaliser. Et mon autre fils est venu, et je me souviens encore, il y a plus de 15 ans de cela, et il m'a pris dans ses bras. Et je peux dire que je m'en souviens encore. Et je crois aussi que voilà, il y a des gestes de tendresse qui sont très importants et qui nourrissent la relation.
Alors, l'autre conseil de sagesse que j'ai glané, vous allez me dire, là, c'est pareil, on va dire François de Romard, il a rien inventé, accepter nos différences. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques conseils de sagesse qu'on n'a pas forcément lus dans des magazines féminins sur ce sujet de l'acceptation de nos différences et puis peut-être des quelques illustrations?
Oui, je crois que l'autre...
C'est tarte à la crème, mais après, c'est autre chose de le vivre. Hein,
oui, l'autre est un mystère. C'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, à la fin, j'ai vraiment eu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes.
C'est pas ce que je voulais dire.
Hein. Et de dire des évidences. Et en réalité, je crois qu'elles ne le sont pas pour tout le monde et qu'il est bon peut-être de rappeler certaines choses.
Qu'est-ce que vous diriez sur le volet d'accepter les différences? Quelle illustration vous pourriez nous donner quant à la pertinence? Vous citez par exemple... je vous laisse répondre.
Oui, je crois que chaque enfant est unique, chaque enfant a son histoire, chaque enfant est différent, les tempéraments sont différents, les histoires sont différentes, et c'est à prendre en compte.
Je vais vous aider. Vous prenez un exemple, par exemple, vous citez dans ce passage "Accepter nos différences". Un passage dans l'Exode, vous dites l'Exode, donc c'est ce temps où le peuple juif en fait était au désert, et vous dites l'Exode à travers l'épisode de la manne, qui est donc ce pain miraculeux que Dieu donnait donc au peuple hébreu qui était au désert pendant 40 ans, nous explique que Dieu nous invite à nous interroger sans cesse. Man ou en hébreu signifie qu'est-ce que c'est? Dieu a donné une question à manger à son peuple dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi est-ce que vous prenez cet exemple de l'Exode à propos des différences?
Parce que je pense aussi que notre croissance, elle se fait par des questions, par des pourquoi. Je raconte aussi l'histoire de Primo Levi qui, lorsqu'il a été arrêté, amené dans des camps de concentration, il était complètement déshydraté, il arrive dans un baraquement et... c'était en plein hiver, il y a une stalactite et quelques gouttes d'eau qui tombent. Et donc il se précipite pour essayer de récupérer un petit peu d'eau. Et là, il y a un soldat qui vient et qui lui donne un coup de gourdin. Et il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et le soldat lui répond, ici on ne pose pas de questions. Quand on ne se pose plus de questions, soit on est mort, soit on est esclave. Et je vois, moi je suis toujours émerveillé de voir mes petits-enfants dire « Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça ?» Et le fait justement de se poser des questions nous bouscule, nous invite à aller un petit peu plus loin. Je fais aussi des préparations au baptême et on a beaucoup de témoignages de mamans qui disent « Mais à 5 ans, mon enfant me pose des questions existentielles. »
Mais pour revenir à l'acceptation des différences, vous voulez dire par là en fait qu'il faut savoir poser des questions? Il faut savoir quoi? Se remettre en cause, s'interroger justement sur cette différence?
S'interroger, s'accepter différent, s'accepter aussi comme un être unique, original. C'est chacun a son chemin et son chemin est particulier.
Alors l'autre conseil de sagesse, vous dites la famille est le lieu où s'acquiert l'apprentissage de la liberté. Alors c'est pareil, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Quelle serait votre expérience et comment vous pourriez souligner ça?
Alors, je suis très, très interpellé aussi par la jeune génération qui, je trouve, est confrontée à des difficultés, à des tentations énormes. Et je pense que si on ne leur apprend pas à dire des oui et à dire des non, à apprendre à s'affirmer. Et ça, à mon avis, ça s'apprend dans la famille.
Quand
ça s'apprend.
Tentation énorme, vous pensez à quoi, par exemple?
Ben, je pense à ce que vivent les enfants à l'école avec l'alcool, avec la pornographie, avec le cannabis, dès le plus jeune âge. Donc, s'il n'y a pas cette colonne vertébrale qui est donnée à l'enfant, qui lui donne de pouvoir un peu s'affirmer, de pouvoir dire ben, « non, je ne veux pas », il va se laisser influencer et se laisser aller à des consommations ou à des activités qu'il ne veut pas faire.
Tout parent, d'une certaine manière, essaye d'éduquer à la liberté en vue du bien un peu ses enfants, même s'il ne le formule pas comme ça.
Tout à fait.
Au regard fort de vos nombreuses années d'éducation, vous diriez que, je ne sais pas, il y a des recettes clés pour apprendre à... Comment vous avez aidé vos enfants à devenir libres?
Oh, je crois qu'il n'y a pas de recette clé. Je crois que j'ai fait comme j'ai pu.
Est-ce qu'il y a des exemples qui vous reviennent en tête sur cet apprentissage de la liberté, justement? C'est oui et c'est non qu'il faut apprendre à poser avec vérité, fermeté, enfin, qui construisent, à vous entendre.
Là, présentement, je ne trouve pas, mais...
Alors on va avancer, c'est pas grave. Il y a d'autres exemples où vous dites, parmi les conseils de sagesse, je continue, la famille lieu de communication, mais à l'intérieur de ça, famille lieu de communication, vous dites qu'il faut oser dialoguer en vérité. Alors ça fait écho un peu à ce que vous avez dit, on sent bien dans votre livre et dans votre parcours de vie que, vous ne vous cachez pas derrière votre petit doigt, probablement que c'est fait suite aussi à votre engagement jeune comme objecteur de conscience. Ça veut dire quoi, oser dialoguer en vérité, et pourquoi est-ce que vous avez incité vos enfants, vos petits-enfants, et puis les familles qui vont vous lire à cela?
Je crois qu'on ne peut pas vivre dans le mensonge. Une famille ne peut pas tenir si elle n'est pas vraiment en vérité. Et cette vérité...
Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Parce qu'on ne peut pas tous dire en famille aussi.
On ne peut pas tout se dire, mais je pense qu'être en vérité, c'est être soi-même, ne pas se cacher, montrer aussi sa fragilité, accepter de reconnaître que là, je ne peux pas, ou là, c'est pas possible, là, c'est trop dur pour moi. De reconnaître sa fragilité, ça permet d'aider l'autre à me reconnaître et à m'accepter.
Y compris quand on est père de famille et grand-père?
Ah, tout à fait.
Ça vous est arrivé, vous?
Tout à fait, je crois que...
Vous auriez des exemples, pareil?
J'ai mes propres limites, voilà, je pense que j'ai eu aussi mes lacunes, j'ai eu aussi mes tentations de laisser faire, hein, oui, et là, je m'aperçois que je dois bien reconnaître que j'ai aussi mes failles et mes lacunes, mais que ça m'empêche pas d'avancer.
Alors, il y a deux dernières choses que je voulais souligner avec vous, qui reviennent dans votre ouvrage, c'est la tendresse. Voilà, c'est un livre qui est plein de tendresse, et donc cette tendresse, évidemment, elle est très à la mode dans l'Église, hein, puisque le pape François nous invite même à une révolution de la tendresse. C'est dire, on peut pas dire qu'on est forcément toujours très habitué dans l'Église à ce type de langage, particulièrement peut-être de la part d'un souverain pontife, sans vouloir évidemment être critique à l'égard des précédents. Vous insistez comme ça, goûtez la tendresse, je crois qu'à un moment vous dites ça. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
Oui, je crois aussi que aujourd'hui, les gestes de tendresse sont parfois équivoques et souvent liés à la sexualité, et c'est dommage parce que dans notre relation, nous avons besoin d'un toucher, d'une présence. On le voit aussi pour les personnes âgées, pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, par exemple. Si vous ne les touchez pas, la relation n'existe plus. Et pour nos petits-enfants, moi je suis émerveillé aussi de voir combien, voilà, les gestes aussi sont présents et sont importants.
Voilà, il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler. Par exemple, vous parlez de l'importance des rituels. Vous dites qu'il n'y a pas de... En fait, quelque part, il n'y a pas de vie de famille sans rituel. Vous parlez évidemment du rituel du repas, mais pas que. Par exemple, vous avez un mot aussi sur le rite des deuils, cette manière qu'on avait de veiller nos morts autrefois. Peut-être qu'on le fait encore dans certains coins de Haute-Garonne. Bref, plein de petits conseils de sagesse dans cet ouvrage dont je rappelle le titre avant qu'on fasse une deuxième pause. La famille creusée de nos richesses, François Dromard, aux éditions Encre Étoile.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc avec François Dromard. Si vous nous prenez en cours de route, je vous représente François. François est tout simplement éleveur en Haute-Garonne, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas très obligeant pour vous. Mais voilà, on est habitué tellement à recevoir des supposés stars, vous voyez, à cette antenne ou à nos antennes, qu'on finit par avoir une tournure d'esprit un peu tordue. Donc vous êtes éleveur en Haute-Garonne, vous êtes père et grand-père, et vous avez écrit un livre pour dire l'amour de votre famille, livre très touchant, adressé à vos enfants et à vos petits-enfants, mais aussi donc au grand public, sinon vous ne l'auriez pas envoyé à la radio, et qui s'appelle « La famille creusée de nos richesses », paru aux éditions Encre Étoile. Dans cette dernière partie d'émission, je voulais parler un petit peu avec le croyant que vous êtes, puisque ça parcourt tout cet ouvrage. Je l'ai dit à plusieurs reprises, en fait, c'est comme un livre un peu de contemplation sur ce qui vous a été donné de vivre. Et donc, on sent bien que vous vous efforcez de regarder ça avec le regard de Dieu, cette vie de couple et de famille. Même si vous le faites évidemment avec pudeur, hein, c'est pas un livre, c'est pas Love Story. Hein, à propos de la foi, je sais pas, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs, peut-être aux pères de famille, justement particulièrement qui vous écoutent. On sait qu'on dit parfois qu'il y a beaucoup de femmes dans l'Église, hein, et c'est le cas. C'est quoi pour vous avoir la foi en fait? Dieu est vraiment quelqu'un de vivant à vos côtés. Comment vous expliqueriez ça?
Oui, je crois vraiment profondément que Dieu est amour, que si j'ai fondé une famille, c'est aussi parce que Dieu lui-même est famille, puisqu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous venons de fêter la fête de la Sainte Trinité et vraiment je suis émerveillé, oui, de cet amour que le Seigneur veut nous manifester au sein de nos familles.
Particulièrement
au sein de la famille. Voilà. Je crois que en tant que père, que grand-père, que aussi conjoint, nous avons plein de rôles à remplir. Mais je crois que pour moi, l'essentiel, et surtout pour mes petits-enfants aujourd'hui, c'est de les porter dans la prière. Je crois que c'est sans doute l'action la plus utile et la plus fructueuse.
Alors vous dites à propos de la foi, donc on sent bien que Dieu est quelqu'un pour vous. Vous dites à propos de la foi malgré tout, et ça, pour en ça vous êtes fidèle à la grande tradition de l'Église, que vous avez une expression à un moment, alors là je la retrouve pas, et vous dites que avancer dans la foi et peut-être même avancer parfois dans cette vie de famille, c'est comme marcher dans la nuit. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ah ben, je crois que la vertu familiale première, c'est l'espérance. C'est que nous avons tous à certains moments des tentations de baisser les bras au niveau de l'éducation, de transférer l'éducation à d'autres, de nous décourager parce que notre famille est divisée, parce qu'elle traverse des épreuves trop lourdes. Et je crois vraiment que le Seigneur nous invite à demeurer dans la foi, dans la confiance. Et je crois...
Et c'est ça, marcher dans la nuit, c'est-à-dire c'est...
Oui,
avancer jusqu'avec la petite lumière de l'espérance.
Oui,
ça,
je crois qu'en tant que chrétien, je sais que au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. Il y a toujours quelque chose qui va me permettre de m'en sortir. Je crois beaucoup au cri. Je suis alors j'en discute souvent avec ma femme. On n'est pas forcément on n'a pas la même réaction, mais je crois pouvoir dire que chaque fois que j'ai vraiment crié, le Seigneur a répondu. Je pense beaucoup, j'ai une grande admiration pour le personnage de Pierre, parce qu'il est, l'apôtre Pierre. Et je pense à cet épisode de la marche sur les eaux. Pierre, très spontané, dit à Jésus, viens, dis-moi de venir vers toi.
Pour les auditeurs qui savent pas, c'est un passage dans l'évangile donc, où Jésus en fait, marche sur le lac de Tibériade à la rencontre de ses apôtres qui sont dans une barque. Il y a beaucoup de vent, la mer est agitée, et Jésus fait signe à Pierre de venir en lui demandant de marcher sur l'eau.
Ouais. Voilà, et Pierre vient un peu de manière très volontaire pour marcher sur l'eau, et puis il commence à voir le vent, à détourner son regard de Jésus, et là, il s'enfonce, et il crie, « Jésus, sauve-moi !» Et là, aussitôt, Jésus le relève. Et dans l'évangile de Luc, il y a cet adverbe qui revient souvent de « aussitôt ». Chaque fois que nous crions vers le Seigneur avec toutes nos tripes, moi je suis vraiment persuadé que le Seigneur entend. Et là, c'est tout notre être profond qui crie, et je crois beaucoup au cri.
Encore faut-il oser, ce qui n'est pas toujours facile, hein, de faire face à notre cœur profond, à ce cri profond, c'est pas simple. Ça met aussi en déséquilibre, en danger.
C'est pas simple, mais osons, je crois, crier le Seigneur en sachant que nous avons un Père qui nous aime. Je suis aussi très très touché par ces paroles du prophète Isaïe qui dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Même si ta mère t'abandonnait, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Il y a vraiment une assurance que le Seigneur est là pour nous relever dans quelque situation que nous soyons.
Alors l'autre chose, vous dites qu'il n'y a pas de vie de couple et de famille sans alternance de consolation et de désolation. Donc là aussi, on pourrait se dire, François Dromard, il n'invente pas la poudre de perlimpinpin. Voilà, on dit même qu'il y a des saisons dans la vie de couple, dans la vie de famille. En même temps, ça fait toujours du bien de l'entendre, parce que parfois, on imagine toujours que les couples d'à côté sont toujours au printemps et à l'été, parce que tout le monde est discret aussi sur ses difficultés. Sur ces difficultés de vie. Alors, il y a certainement des couples qui traversent de plus grandes difficultés que d'autres. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, alternance de consolation et de désolation? Qu'est-ce que vous pourriez partager à nos auditeurs qui puissent les encourager?
Oui, moi je crois aussi que c'est cette volonté vraiment de toujours se relever. Je crois que l'important c'est pas de dire ça y est, je suis tombé, je vaux rien et tout. L'important c'est de se relever. J'aime beaucoup cette définition du saint, c'est celui qui tombe 7 fois par jour, mais qui se relève 7 fois. Voilà, donc c'est, je crois, une invitation vraiment à reprendre le chemin à chaque instant, à chaque jour. Et je voudrais aussi souligner combien je m'émerveille aussi de voir que nous avons aussi un modèle de la famille dans la Sainte Famille.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un peu du chinois, sans vouloir trop...
Mais quand on regarde l'Évangile, on s'aperçoit quand même qu'il y a 90% du temps de la vie de Jésus qui se déroule à Nazareth.
Oui, mais ce n'est pas 90% des Évangiles, on n'a pas grand-chose.
Oui, alors effectivement, on ne nous en dit pas grand-chose.
Parce qu'on ne sait pas grand-chose de Joseph non plus.
On ne dit pas grand-chose de Joseph. Et je crois aussi que là, on a peut-être eu tort dans l'Église de séparer la Vierge Marie de Joseph. Et alors, on dit qu'il n'y a pas eu de communion des corps, mais ça n'implique pas pour autant qu'il n'y a pas eu une communion des cœurs. Et je pense qu'il y a eu au sein de la Sainte Famille une ambiance, une intimité, une tendresse qui devait être extraordinaire. Et je crois que là, on a un modèle d'une vie de famille, d'une petite trinité sur la terre qui est l'image de ce que nous sommes appelés à vivre, nous, en tant que famille.
Et en quoi ça vous a inspiré, vous? Parce que, une fois de plus, c'est un modèle qu'on peut imaginer, voire qu'on peut idéaliser, mais...
Parce que je crois aussi que quand on est dans des situations vraiment dramatiques, quand on vit aussi des relations difficiles avec notre père ou avec notre mère, Marie est notre maman, Joseph peut être un père aussi de substitution pour venir nous restructurer et penser un peu toutes nos plaies dues à notre histoire familiale.
Vous n'auriez pas une grande dévotion à Saint-Joseph, vous, par hasard?
Ah, j'aime beaucoup Saint-Joseph.
Voilà, pourtant, vous n'en parlez pas dans votre livre. Alors,
j'aime beaucoup Saint-Joseph parce que...
Il garde pour soi les secrets de son cœur, mais est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? C'est pareil, comment vous aideriez les auditeurs à les introduire à une dévotion à Saint-Joseph? Parce que, une fois de plus, déjà, je sais qu'il n'y a pas que des auditeurs croyants qui nous écoutent, que des auditeurs qui sont chrétiens pratiquants. Mais alors de croiser des gens, en plus de gens comme vous qui croient en Dieu, pour qui Dieu est quelqu'un, Dieu est amour, avoir une relation avec un saint, quelqu'un qui est défunt, qui a été reconnu saint par l'Église, là ça devient pour beaucoup un peu du chinois. Comment on fait pour rentrer en intimité avec lui?
Je le relis aussi avec toute cette famille de Nazareth, de s'imaginer que Jésus a grandi en sagesse et en taille et il leur était soumis. C'est quand même un mystère assez extraordinaire d'imaginer que Jésus devait aussi voir Joseph comme l'ombre du Père, comme celui qui était l'image de Dieu le Père. Et peut-être qu'il a découvert aussi sa divinité à travers l'image de Joseph. Et l'image et Joseph est à découvrir, à mon avis, justement dans le secret, dans la contemplation un petit peu intérieure, parce que c'est quelqu'un qui est dans le retrait. Hein. Joseph, le mot même signifie être retranché, être un petit peu en retrait, mais c'est pour nous amener à le rechercher et à vivre dans son intimité. Et je crois aussi que dans notre monde où on a perdu beaucoup de repères, Saint Joseph, je crois d'ailleurs, avait été choisi par Jean-Paul II comme le saint patron du deuxième millénaire pour l'Église.
Troisième millénaire, pardon.
Pour l'Église, parce que justement, il incarne cette paternité dans tous les sens, avec son autorité dans le sens de faire grandir, avec sa foi. Enfin, c'est quand même aussi quelqu'un qui décide, et puis lorsqu'il a le songe qu'il doit partir en Égypte pour protéger Marie et Joseph, il se relève la nuit, et aussitôt, là aussi il y a une audace. Je suis aussi très touché par Saint Joseph qui nous montre que tout est grâce, tout est reçu, mais tout aussi dépend de nous, où on a à oser et à dire, bon, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, il faut partir.
Pour finir, je voudrais que nous parliez, si à un moment vous dites, à nous le possible, à lui l'impossible. Alors lui, ce n'est pas Saint Joseph, c'est Dieu. Pourquoi cette phrase? Et puis, est-ce que vous avez éprouvé dans votre vie de famille qu'au moment, Dieu fait l'impossible?
Alors, j'en reviendrai un petit peu au cri. C'est-à-dire qu'à certains moments donnés, lorsque nous sommes à ras de terre, il me semble qu'il n'y a que le cri. Et à se dire, Seigneur, là j'en peux plus. Là, j'ai besoin de toi. Et c'est là que, oui, le Seigneur peut faire les choses. Moi, je ne peux pas. Je reconnais mes limites. Je reconnais que je suis un handicapé de l'amour, que je ne sais pas aimer, je suis obligé de le reconnaître. Je parle de la famille et de sa beauté, mais je suis le premier à en tirer les leçons, parce que je ne sais pas aimer véritablement. Et donc, si je ne reconnais pas cette incapacité, je ne laisse pas le Seigneur faire son travail, je vais dire.
Pour finir, vous faites un parallèle, vous dites que la vie de famille, c'est un peu comme l'art de l'icône. Et puis, vous dites aussi dans votre ouvrage que votre épouse s'est mise à cet art de l'icône. On a fait une émission récemment à l'abbaye Sainte-Marie du Désert, justement, juste à côté de chez vous, sur ce bel art de l'icône. Pourquoi vous prenez cette image? En quoi est-ce qu'elle est parlante? Il y a plein de choses là-dedans. Hein.
Oui, alors en fait, dans la rédaction de ce livre, c'est le seul chapitre que j'ai écrit d'un seul jet. Un jour où je me suis retrouvé à l'hôpital, et donc ça m'est venu, vraiment. Et c'était aussi pour faire un petit clin d'œil à mon épouse, donc, qui, depuis une dizaine d'années, s'est mise à l'art de l'icône et qui est passionnée. Et j'ai fait un petit peu quelques parallèles entre la famille et l'icône. Parce que d'abord, l'icône a un aspect théologique, c'est un objet de vénération, c'est un objet qui implique la prière, aussi au niveau de la réalisation, et que la famille aussi a une dimension théologique. Comme nous disions, la famille est l'image vraiment de l'union du Christ et de l'Église.
C'est le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et que donc, cette manifestation, elle va aussi se décliner dans le temps. Et que pour faire une icône, ça demande beaucoup de temps, ça demande une certaine préparation,
la
ça se fait
aussi
sur une planche avec une douzaine de couches d'enduit jusqu'à, dit-on, qu'elle soit douce comme une peau de bébé. Voilà. Et donc la famille aussi, c'est un lieu de vie qui s'élabore dans le temps, hein, qui nous propose un cadre dans lequel les enfants peuvent croître. Et il y a comme ça plein de caractéristiques aussi de l'icône. Peut-être pour terminer, je pourrais parler de la perspective inversée et de la lumière. Vous savez, dans les icônes, le point de fuite n'est pas à l'intérieur du tableau, comme avec une perspective vers le tableau, mais au contraire vers celui qui la regarde. Et donc c'est une invitation justement à se laisser regarder. Ce petit parallèle que je fais avec la famille, c'est aussi justement de voir le divin et tout le potentiel aussi de vie qu'il y a dans les membres de nos familles.
Eh ben, merci beaucoup François Dromard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La famille creusée de nos richesses, aux éditions Encre Étoile. Merci d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.